mars et ça repart, mais pour ça il faut connaître la ligne de départ pour mieux appréhender le chemin parcouru et celui qui nous attend. Alors tenons la barre, chocolatée, et en avant pour un coup d'œil dans le rétro, voici CMA. Bonsoir et bienvenue dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Et à l'origine de cette émission, il y a une bande de chroniqueurs qui se demandent tout le temps si c'était mieux après. Voici donc le sommaire de CMA. Le premier sujet va être coton. Il va nous falloir ouvrir grand nos oreilles. Bonsoir Florian, de quoi nous parles-tu ?
Bonsoir. Eh bien écoutez, pour préparer cette chronique, j'ai fait confiance à mon petit doigt. Vous savez, l'auriculaire.
Oui.
Et donc, je vous parle de cet accessoire hygiénique du quotidien qui est le coton-tige.
D'accord. On verra ça. C'est dans Matrix qu'on a des conversations. Mais on va vous lâcher les baskets avec les jeux de mots, car on a trouvé chronique à vos pieds. N'est-ce pas, Caro ?
Bravo. Oui, bonsoir. On va parler de la paire de baskets la plus culte du monde.
Ah, du monde, carrément.
Du monde entier, de l'univers.
Ok. Et on ne sait pas laquelle c'est. D'accord. Ça sera
on
ne
sait pas.
On ne sait pas. Il règne un climat détendu dans cette émission, même si quelquefois les sujets sont chauds. On aura le temps d'en parler avec Jérémy. Bonsoir, de quoi nous parles-tu ?
Bonsoir, je me suis dit que le climat, on en parlait un peu trop, que l'histoire du climat, tout le monde s'en foutait.
Ouais.
Donc je me suis dit que j'allais faire l'histoire de l'histoire du climat. Voilà.
Oh là ! Ouais, on va revenir, on a 3 heures.
Je vous ai déjà perdu.
Ouais. Et bien sûr, en deuxième partie, de nouveaux sujets nous attendent, avec entre autres des poupées et des satellites. Ah, et ouais. Donc, pour l'heure, voici la première partie de CMA. Il a été condamné à faire des tiges, des TIG, des textes intelligents sur G, car il s'est fait gauler à faire des copier-coller sur Wikipédia. On le pardonne, l'erreur c'est humaine. Ne mettons pas des bâtons dans les roues, car il est châtain, et c'est donc la tête dans le coton qui va nous parler de quelque chose qui n'existe plus. Tendons l'oreille, voici la chronique de Florian.
C'est la chanson du coton-tige, qui dans le plaisir vous fige. Quand il se glisse dans votre oreille, c'est toute la vie qui s'émerveille.
Alors, le coton-tige, bah écoutez, c'est en fait une vaste blague.
Ah bon ?
Parce que depuis son invention, et oui, depuis son invention au XXe siècle par Léo Gerstenzang,
enchanté,
des générations et des générations de familles en font encore une mauvaise utilisation.
Ah, c'est pas et dans les oreilles qu'il faut les mettre. Eh ben, on va apprendre des choses ce soir.
On dira pas où c'est.
Ouais, c'est ça, ouais.
Depuis tout petit, on nous apprend que le coton-tige, introduit dans l'oreille, sert à nettoyer ses oreilles,
ouais,
et à l'en débarrasser du cérumen.
Mm-hmm.
Eh bien non. Enfin, si. Mais non. Pas en l'enfonçant dans l'oreille.
Ah, d'accord.
Eh oui. Faut simplement tourner délicatement autour du pavillon auditif pour retirer le surplus de cérumen donc, qui se dépose de jour en jour dans l'oreille. Alors, faut pas faire ça tous les jours non plus. Les spécialistes disent entre tous les 10 ou 15 jours.
Ah oui.
Bah oui, ça suffit. T'as pas une couche de cérumen qui va sortir de ton oreille. Voilà. Et surtout pas, l'enfoncer dans le conduit auditif.
Ouais.
Parce
que voilà. ça enfonce le cérumen, ça le tasse.
Et ben...
ah, c'est vrai que sur le principe, on se demande comment ça peut marcher. Quoi. On enfonce un truc pour faire sortir des choses.
Ouais.
Faut être logique.
Bon, et ben, je vais vous dire. Qu'est-ce que c'est que cette invention, quand même, qui fait finalement pire que mieux ? À l'instar du périph' parisien ou du tramway en juin, il cause des milliers de bouchons de cérumen.
Joli.
Voilà. Alors notre cher Léo, hein, donc l'inventeur du coton-tige, hein, il n'avait pas trop vu venir le truc quand même. Hein. Innocemment, il a mis un bout de coton sur un cure-dent pour nettoyer le nombril de son gamin.
Oui.
Et hop, le coton-tige était né. Il a d'ailleurs appelé ça le Q-type.
Oui.
Or Q pour qualité et puis type pour bâtonnet sûrement.
Ouais.
Voilà. D'ailleurs, c'est sous ce nom qu'il est encore connu en Suisse romande.
Ah bon.
Ils appellent ça le Q-type. Donc
tu te mets le cul,
l'oreille.
Tu te mets avec un Q-type.
Avec un Q-type.
Bon, écoute, pourquoi pas.
On n'ira pas en Suisse, du coup.
De quoi ?
On n'ira pas en Suisse.
Bon, il y a autre chose.
Tu peux y aller, mais tous les 10 jours.
Oui, c'est ça.
Demande pas à coton-tige, ils sauront pas c'est quoi.
Ça s'appelle comme ça dans les pharmacies, là, aussi.
Ah bon ? Les
Q-types ?
Alors,
les coton-tiges ? Ah non, on n'en a plus, c'est interdit. Par contre, on a des Q-types.
Attends, va pas trop vite.
Oula.
Bon alors, son utilisation est bien sûr d'abord hygiénique. Hein, l'invention, c'était déjà pour nettoyer les parties du corps humain qui étaient soit sensibles, soit difficiles à accéder. Et notamment pour les nourrissons, quand même, ils sont assez fragiles. Donc c'était voilà, pour nettoyer les bébés. Donc hygiénique, esthétique aussi, pour le maquillage, par exemple. Ou, voilà, pour,
mm-hmm.
voilà. Et même artistique. Hein. Est-ce que vous connaissez la peinture au coton-tige?
D'accord.
Maintenant, oui.
Ça peut être une technique. Ça peut être une technique, hein, de peinture pour faire des points, des trucs machin.
Mmh. Ok. Voilà.
Ça sert aussi pour nettoyer les objets précieux et délicats, mmh. notamment pour la restauration d'œuvres d'art. Aussi, on met ça.
On nettoyait les magnétocassettes dans le temps avec.
Eh ben aussi, voilà. Il y a plein de sortes.
Dans le temps, hein.
Il y a avec plein de sortes d'utilisation du coton-tige. En même temps, il faut dire quand même que c'est un peu pratique, puisque le coton, il a la capacité d'absorber un liquide, que ce soit de l'eau, de l'alcool ou du dissolvant, en fait. Ah voilà, ça c'est quand même une invention assez, assez intéressante.
Mais donc avant, on faisait comment alors? On laissait les cires humaines couler?
On ne sait pas. Non, si. Depuis longtemps, en fait, il y a des bâtons, en fait. À l'époque, on mettait des bâtons avec un truc au bout. Et c'est pareil, on récupérait le cire humaine.
D'accord, mais c'était pas du coton. Donc c'était pas jetable.
Bah, dans les régions où le coton existait, où il y avait du coton, on pouvait mettre
donc
du coton.
Donc ça existait
peut-être.
Avant, c'est un escroc, ton gars.
Mmh. En Europe, il n'y avait pas de coton, donc...
D'accord.
Donc bah, ils faisaient comme ils pouvaient.
Non, c'était des sortes de lavements avant, en fait, à l'eau chaude et la tête
alors,
penchée, en fait.
Les ORL disent quand même que pour nettoyer ses oreilles, le meilleur moyen, c'est quand même son auriculaire.
Oui.
Parce que ça permet de ne pas aller trop loin, et ça permet quand même de...
Ouais.
D'où le nom, hein.
D'où le nom, voilà. Et le cœur humain est bien fait, effectivement. Merci, Jérémy. Bon, alors, le coton-tige a quand même refait une entrée fracassante, hein, dans la tête des gens ces derniers temps. Enfin, plutôt dans le nez des gens.
Oui.
Ah oui, oui, exact.
Sous forme d'écouvillon pour aller traquer ce satané Covid, puisque c'est comme un coton-tige, en fait, c'est un bout.
Je suis vierge encore.
Ah non, oh.
J'en ai pas eu. Non, j'en ai pas eu encore, je suis passé. Ouais,
ah bon ?
Jamais je me suis fait dépister pour l'instant. Non. Laissez-moi vierge.
Bon, depuis tout à l'heure, je vous parle du coton-tige parce que l'Académie française m'y autorise, mais je devrais plutôt dire bâtonnet ouaté.
Bah,
parce que la marque coton-tige.
Ah, c'est une marque.
Est une marque. Donc le coton-tige est une marque qui appartient depuis 1952 au géant Unilever. Donc il fait plein de trucs, hein. Un gros alimentaire, il fait des gâteaux, les machins.
C'est une marque, d'accord.
Il fait du thé et il fait aussi les cotons-tiges. Et oui.
De la lessive, oui.
Vous le saviez pas?
Non.
Eh ben, eux non plus, ils ne le savaient plus. Ils avaient oublié qu'ils étaient détenteurs de la
coton-tige.
Coton-tige. Mais aujourd'hui, ils veillent quand même à ce que les industriels qui font des cotons-tiges n'utilisent pas le terme coton-tige.
C'est pour ça que c'est passé dans le langage commun, ça doit être comme frigo, ils ne doivent plus avoir le droit de toute manière.
C'est pour ça que l'Académie française autorise à dire coton-tige, puisque maintenant c'est un mot commun. Donc,
c'est ça. Voilà. Donc ils vont se faire retirer leur marque. Tout ça.
Ouais. D'ailleurs, donc, les bâtonnets ouatés, dont la tige est en plastique, sont interdits sur le marché depuis le 1er janvier 2020. Trop de gens les jetaient dans la cuvette des WC et ils finissaient dans les océans.
Le plastique.
À quel moment tu te fais les oreilles aux toilettes?
C'est une bonne question, mais visiblement, il y en a qui le font.
Non, mais des fois, il y a des toilettes dans les salles de bain. Donc,
oui, c'est vrai.
Donc ça, l'interdiction, ça concerne que les bâtonnets
plastiques
qui sont d'utilisation domestique. Ça ne concerne pas les bâtonnets à usage médicaux, d'où les écouvillons.
Ouais.
Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais ils sont encore en plastique.
Ouais, bah oui.
Alors que nous, nos cotons-tiges actuels sont en papier, en fait, en papier recyclé, enfin...
Et ça, on a le droit. En papier recyclé, on a le droit d'avoir. D'accord.
Oui.
Donc, il y a encore des...
Il ne faut pas que ce soit en plastique, c'est tout. Mais d'accord. Le coton-tige existe encore, oui.
Ah oui, okay. Ah, oui, oui.
Moi, j'en ai acheté récemment encore.
Ah, oui, okay,
même pour
okay.
enfants, pour bébés, c'est avec des doubles embouts.
Alors sinon, dernière petite info. Revenons quand même au nettoyage des oreilles. Est-ce que vous savez dans quel pays le nettoyage des oreilles est une tradition ancestrale, voire un art de vivre?
Je ne sais pas. Un pays où ils ont des grandes oreilles?
Pas forcément, non. En Mongolie, donc?
Oui.
non plus.
Non. C'est au Japon.
Bon.
C'est au Japon. Et donc, le nettoyage d'oreilles ou le curage d'oreilles, ça s'appelle le mimikaki.
J'ai fait un gros caca ou un mimikaki?
Donc, mimi, c'est oreille et kaki, c'est nettoyer.
D'accord.
Donc, c'est un rite ancestral qui se pratiquait initialement en famille où,
c'est chouette,
où la mère de famille nettoyait les oreilles de l'enfant.
D'accord.
Donc, curer plus, aller chercher, enfin c'est pas vraiment le pavillon auditif, hein. Ils vont chercher le cire humaine quand même dans l'oreille.
Ils faisaient des bougies avec.
Si tu veux. Donc en fait c'est une tige de bambou en fait, qui est incurvée et donc ils vont récupérer le cire humaine comme ça.
Okay.
Donc aujourd'hui ça se pratique dans des instituts, des salons privés, des bars à hôtesses ou des maids de café. C'est là où il y a des petites nénettes habillées en un peu manga, en soubrette, voilà, qui
te... Ah oui, donc c'est limite un jeu sexuel maintenant de se faire titiller les oreilles.
Non. Non, il n'y a rien de sexuel dedans.
Ouais. Quel intérêt de se faire ça dans un...
Ben, ça apaise, parce que ça rappelle son enfance et ça rappelle, voilà, ça rappelle le soin de la mère.
C'est un vrai truc, quoi. Ouais.
Et donc, il y en a qui s'endorment pendant le curage d'oreilles. Donc, ça peut vous coûter une trentaine d'euros. Voilà, ouais. Notamment à Tokyo.
Bon,
si vous voulez.
Très bien. Merci, Florian. Ouais. Heureusement, on n'a pas eu la démo de ce qui remplace un curage d'oreille. Maintenant, vous savez, c'est le truc un petit peu en hélicoïdal, là, qu'on tourne dans l'oreille.
Il y a tellement de choses.
Ouais, c'est horrible. Allez, dans un instant, on va prendre notre pied avec Caroline et même du bon temps avec Jérémy. Alors, restez bien avec nous. Mais pour la minute qui suit, c'est le Graal qui répond à vos questions sur le site radio-g.fr. Et là, on nous demande quelle est la piscine la plus profonde au monde. Plongeons donc dans la réponse du Graal.
Question de Nemo de la Maine. Quelle est la piscine la plus profonde du monde ?
Je crois qu'on touche le fond avec ta question, Nemo, mais je vais te répondre. 60 mètres de fond, 14 millions de litres d'eau à 30 degrés, voilà les caractéristiques de la piscine la plus profonde du monde. C'est même dans le Guinness des records. Il va te falloir aller à Dubaï, qui n'en est pas son premier record. Mais alors, à quoi sert cette piscine ? C'est une attraction touristique pour plongeurs et réalisateurs de cinéma. Une ville engloutie y a été construite. On peut donc l'explorer en scaphandre en plongeant jusqu'à 60 mètres. Contrairement à ce qu'on trouve dans la nature, le bassin est ici éclairé. On y écoute de la musique et on peut même y jouer au baby-foot entre plongeurs. Attention quand même, 60 mètres, ça met la pression. Il faut remonter doucement et surtout hors de l'eau, patienter au moins 24 heures avant de prendre l'avion. C'était le Graal à retrouver en vidéo sur les comptes Question Graal d'Instagram et Facebook. Allez, vous êtes toujours dans CMA, on revient sur les origines des choses et là, c'est en grande pompe qu'elle va nous enlacer. Et certains pensent que les cons versent dans le luxe, elle prend son pied à en parler. Voici la chronique de Caroline.
Qui c'est qui a fait dans mes chaussures ?
Qui c'est qui a fait dans mes chaussures ?
Qui c'est qui a fait ?
Qui c'est qui a fait ?
Qui c'est qui a fait dans mes chaussures ?
Voilà, c'est Luce. Qui c'est qui a fait dans mes chaussures ? Des pratiques bizarres.
Ouais. Alors, la légende dit que tout a commencé par une chute d'escalier d'un certain Marquis Mills Converse, qui a décidé après cela de créer les premières chaussures avec des semelles en caoutchouc. C'est en 1908 qu'il fonde alors la Converse Rubber Shoe Company, qui à cette époque ne vendait que des bottes fourrées équipées de la fameuse semelle. C'est en vrai le début de l'histoire Converse. En 1910, la production prend de l'ampleur et c'est en 1915 qu'une gamme pour le sport est développée. La toile apportait la légèreté et la semelle la résistance. Elle s'adaptait donc parfaitement au basketball, étant idéale pour le parquet. Le nom de All-Star est alors créé. En 1917, la marque embauche le basketteur Charles Chuck Taylor, joueur des Akron Firestones, comme égérie. À la base, le joueur était juste venu en boutique pour se plaindre de douleurs aux pieds et il a été embauché comme directeur marketing et ambassadeur. Et en fait, il a tellement fait décoller la marque que toutes les équipes de l'American Basket League, donc c'est l'ancêtre de la NBA en fait, se sont mis à porter les baskets. Donc pour saluer cette prouesse énorme, Converse a en 1932 fait imprimer le nom de Taylor sur la chaussure et il l'agrémentera le tout d'une étoile avec l'inscription All-Star. Le tout dans un cercle, et c'est toujours le même logo qu'en fait que nous connaissons aujourd'hui.
Du coup, on ne peut plus lui voler la chaussure, il y a son nom dessus, il dit ça à moi.
Ah bah oui, c'est sa chaussure, ouais. 1932, donc c'est énorme. Ensuite, en 1936, Converse fait partie des sponsors au JO de Berlin. La paire favorite étant une paire blanche avec des bandes rouges et bleues, en spécial drapeau américain, hein. Bandes rouges et bleues le long de la semelle. C'est alors que la marque connaît une ascension fulgurante. Elle multiplie les parrainages, elle multiplie les contrats sportifs surtout, et pendant la guerre, c'est Converse qui fabrique les bottes de l'armée américaine. Enfin, en 1957, Converse a atteint 80% des parts du marché de l'industrie de la sneaker, ce qui est énorme. La marque sort alors un autre modèle, les Jack Purcell, c'est la version basse en fait, très simple, avec juste une étoile et une petite flèche. Dans les années qui suivirent, c'est une marque qui a réussi à s'imposer dans toute la culture populaire, dans la musique, dans le sport, et à charmer toutes les générations en fait. On les a vus sur Elvis, sur Kurt Cobain, leur donnant une notoriété dans la musique et surtout dans le rock. Dans le monde du cinéma, on les voit surtout au pied de James Dean dans La Fureur de Vivre. On les voit sur Ewan McGregor dans Trainspotting. C'est quand même des films qui ont marqué toutes les générations. On les voit dans Grease, sur Travolta, etc., etc. Donc la Converse devient vraiment symbolique d'une mode et d'un style typique. Ensuite, c'est dans les années 90 à 2000 que Converse se fait un petit peu devancer par les grands groupes comme Nike, Adidas, Reebok et surtout ASICS. Grâce à Kill Bill, ASICS a fait une remontée fulgurante en fait. Donc plusieurs paires de baskets étaient devenues indispensables dans le dressing des jeunes. On connaît notamment la Jordan, la Air Max, etc., qui sont devenues des paires un petit peu cultes. Et donc, Converse s'est laissé devancer gentiment. En 2003, l'inévitable arrive, Nike rachète Converse et lui fait peau neuve. Alors, il décide de bouger un petit peu la marque qui était restée vraiment sur juste cette paire un petit peu vieillissante. Elle fait des collabs avec des artistes ou même des grandes maisons de luxe. On a vu des collaborations avec Missoni. On a vu une paire avec Maison Martin Margiela. Donc c'était une paire qui était tout à fait singulière puisqu'en fait, il y avait un blanc de meudon dessus.
On ne comprend absolument rien de ce que tu dis. Alors, tu es consciente quand même,
alors,
Caroline.
Alors Maison Martin Margiela, c'est une grande marque de luxe en fait. Et ça a fait une collab avec Converse.
Et le blanc de meudon, c'est quoi?
C'est une sorte de blanc typique. Et en fait, sa spécificité, c'est que plus tu fais de pas et plus tu marches avec, plus la peinture s'effrite.
Bah oui. Ah oui, d'accord.
C'est ça le blanc de meudon, c'est une peinture qui s'effrite et donc qui laisse apparaître au bout d'un moment un espèce de rouge en fait. Donc on avait deux couleurs de chaussures avec le temps.
Ah, c'est blanc devant et quand ça s'effrite, ça devient rouge.
Ouais, c'est ça, avec le temps. Donc en fait, c'était vraiment, ça devient des œuvres d'art, c'est des vrais concepts quoi. Alors il y a une édition comme des garçons aussi, celle avec le cœur et les yeux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est une édition qui a tellement bien marché qu'elle sort trois fois par an. En fait, et elle a eu un gros buzz parce qu'elle a été portée par Drake et Kanye West en fait, donc il la sort très souvent. Alors il y a eu une performance même d'un artiste qui s'appelle Nate Lowman. Il a travaillé 180 heures sur une paire de Converse et elle a été vendue comme œuvre 25 000 euros. En France récemment, il y a l'Homme Pâle qui a customisé une paire vendue en édition limitée. Et enfin, si vous voulez acheter une paire de Converse, la dernière à la mode, c'est la semelle double. Donc, c'est risqué, mais ça se tente.
Ça veut dire quoi? C'est compensé? C'est-à-dire qu'elle est plus
haute? Ouais, elle est très compensée, en fait. La semelle est double, blanche.
D'accord.
Sur la Converse classique que tout le monde connaît. Donc, c'est risqué. Mais c'est celle qui est vraiment la paire phare de 2021-2022.
Il faut être petit.
Enfin, si voilà, grand, ça aide quand vous êtes petit. Et sinon, moi, je vous conseille de vous rabattre sur la paire noire classique qui fait un gros retour en force et qui sera indémodable, peu importe l'âge et la tenue.
Ouais. Alors, tu places ça Converse où, les Converse? C'est du luxe encore ou c'est par rapport à la gamme de prix, par rapport à Nike, Adidas?
Ça a augmenté avec les années, en fait. Ouais. Moi, je sais que quand j'étais ado, c'était partout. Encore raisonnable, etc.
Donc,
au lycée,
cher,
on en avait pas mal.
C'est cher maintenant.
Là, ça commence à augmenter, ouais. Bah, comme les paires de Nike, quoi. Ça peut aller de 100 à 130. Converse, c'est encore en dessous. C'est 75 euros à peu près quand même.
Ouais. Est-ce que la qualité augmente? Parce que finalement, c'est toujours la même chose.
La qualité, c'est exactement la même. Ouais.
Ils jugent sur le buzz pour
la peinture,
plus cher,
la coloration avec le soleil, etc. S'use. Mais après, comme tout, c'est l'effet de mode. Donc la paire à avoir, c'est la paire noire, double semelle noire.
D'accord.
Si vous voulez investir.
Sur le bon coin ou Vinted.
Ou sur Vinted.
Mais la semelle est noire aussi ou blanche?
Non, la semelle est blanche, ouais.
Ah, okay.
C'est le truc de Converse, semelle blanche et les couleurs en haut.
Mais à part la peinture, il n'y a pas une spécificité? Moi, je voyais ça tissu plus les Converse.
C'est des toiles, ouais.
C'est des toiles, c'est ça.
C'est la
hein.
toile, ouais.
C'est ça, il n'y a pas de cuir chez les Converse.
Non, bah, la semelle est en cuir et enfin cuir caoutchouc quoi, ouais. Et le logo sur le côté, ouais.
C'est ça, mais sinon c'est de la toile.
C'est de la toile, ouais, parce qu'ils ont gardé en fait cet aspect sport, etc., pratique.
D'accord.
Mais
et confortable.
Même la coupe, enfin ce genre de coupe est en toile comme ça, je vois pas d'autres marques qui font ça en fait. C'est vraiment que Converse.
Non, mais c'est pour ça que Nike en rachetant a vraiment gardé le modèle de base parce que c'est un modèle qui marche très très bien auprès des gens quoi.
Il y a
la coupe haute et basse, ouais.
Et c'est unisex, c'est.
C'est unisex, ouais.
Ok.
Pour tous les âges.
Parfait.
Pour tous les genres.
Merci Caro. Allez, Manu serait là. On parlerait des clitos sceptiques. Mais lui, il rajoute son mât ce soir pour ne pas être climato-sceptique. Les druides gaulois disaient déjà, tels des Elvines d'Elia, qu'après la pluie, vient le beau temps. Et bien là, après son jingle, vient sa chronique. Voici la chronique de Jérémy.
Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon.
Et même pendant les jingles, ça continue à causer de converse.
Il est très bien ce jingle en plus.
Bah ouais, go.
Parce que justement, Gauvin la question c'est... Oui, mais je l'aime beaucoup. C'est de qui du coup ?
Gauvin Serre.
D'accord. Parce que du coup, la question effectivement, c'est pas le climat maintenant, mais c'est depuis quand il n'y a plus de saison ? Parce qu'on en parle tellement aujourd'hui.
Oh bah ma pauvre dame, ma pauvre dame.
Mais oui, mais ça date de super longtemps en fait.
Ah ouais.
Parce qu'aujourd'hui, il semble qu'on prenne conscience un peu tardivement de notre impact sur le climat. Mais la question, c'est depuis quand est-ce qu'on en a rien à foutre en fait ? Parce que les expressions sont là. Et finalement, ça fait longtemps que le climat pose question à nos ancêtres. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'aujourd'hui, on sent qu'on doit y faire quelque chose au climat. Donc ça nous fait flipper. Avant, on n'y pouvait rien et ça nous faisait flipper aussi. Et en fait, c'est qu'avec l'accès au charbon et au pétrole qu'on s'est émancipé du risque climat, puisque avant, le climat, donc, c'était les récoltes qui pouvaient être mauvaises, c'était la santé, etc. Et c'est que depuis qu'on arrive à chauffer nos maisons et nos serres que finalement, quel temps il fait demain, bon, c'est pas grave, quoi. Et donc, avant de comprendre aujourd'hui que le prix à payer pour le pétrole et le charbon, c'était le dérèglement du climat, eh ben, on s'est posé beaucoup de questions sur comment fonctionnait le climat. Acte 1, l'ivresse, et on remonte à la colonisation des Amériques, où le climat, à l'époque, était un objet politique qui faisait l'objet de toutes les spéculations. Il était, à l'époque, une image du climat antérieur de l'Europe civilisée, et donc on accusait les indigènes des Amériques de ne pas avoir pris soin de leur territoire, ce qui expliquait le climat humide et mauvais qu'il pouvait y avoir là-bas. Et donc on croyait...
Ah oui, ça allait jusque-là.
Ah, bah ça allait loin. La science, à l'époque, c'était pas triste. Hein.
Ah, oui.
Tout était bon pour justifier la colonisation, et donc on estimait que de restaurer, de cultiver la terre allait permettre de restaurer le climat. Il fallait convaincre les colons d'aller là-bas, hein, parce que c'était une question de survie à l'époque. Hein. Comment est-ce qu'on peut inciter des gens à venir aux États-Unis alors que bah, il y a de la forêt partout, il fait pas beau. À l'époque, ça faisait pas rêver.
Mais eux, le climat, ça les intéressait aussi parce qu'ils faisaient des sacrifices et tout ça pour qu'il y ait le soleil, qu'il pleuve.
Alors
et
après,
tout ça.
On a peu de traces effectivement au niveau de ces indigènes de ce que eux en pensaient, mais clairement, du point de vue d'aujourd'hui, ils avaient un respect beaucoup plus important pour la nature. Mm-hmm. Et en Europe à cette époque-là, on pensait justement que, au contraire, c'était de faire des champs, de déboiser, qui allait apaiser le climat. Et il y a eu beaucoup de choses dites à l'époque, de plus ou moins drôles, sur le fait que c'était justement en.
Il était moins lié à Dieu. Ou à un dieu que pour
oui,
les tribus.
On était, parce qu'à l'époque, là je remonte pas vraiment au tout début, mais au moment de la colonisation, on commençait, l'homme commençait à devenir tout puissant sur la nature, et on
d'accord.
était plutôt dans,
la maîtrise.
Voilà, dans la maîtrise. On va pouvoir faire quelque chose. Et puis après, bon, côté scientifique, les arguments de l'époque, et aujourd'hui ça fait sourire, mais à l'époque c'était très sérieux. Il y a des gens qui ont bossé longtemps là-dessus. Et rien que sur la souveraineté de la France à Québec, on réfléchissait en termes de climat en disant bah oui, les gens vont bien se sentir, être bien à l'endroit où il fait le même climat que chez eux. Et donc pourquoi la France à Québec ? Parce que c'est sous les mêmes latitudes. Et pas sous les mêmes latitudes que l'Angleterre. Hein. Vous voyez la logique ?
Oh là là,
pourquoi
oui,
l'un et pas l'autre ? Hein, ça ouais. allait loin au niveau ouais. des débats. Hein. Ça volait pas très haut. Acte 2, j'ai appelé le soupçon, puisqu'au XVIIIe siècle, on commence sérieusement à analyser de manière un peu plus factuelle le climat. Hein. C'est pas juste s'envoyer des arguments plus ou moins fallacieux à la tête, mais l'apparition des premiers appareils de météorologie, avec notamment les registres d'observation. C'est tout bête, hein, juste un cahier où on note les observations au jour le jour. Bah, c'était révolutionnaire à l'époque, puisqu'on commençait à avoir accès vraiment au temps long des phénomènes climatiques.
Donc avant, on a absolument aucun, aucun
c'était
élément.
Pas, c'était pas aussi cadré, aussi précis, on va dire, d'accord. au niveau scientifique. Et donc au XVIIIe siècle, on commence vraiment à prendre la chose à bras-le-corps et à faire des relevés sur la durée. Bon, après 50 ans de relevés, on s'aperçoit que les thermomètres de l'époque n'étaient pas aussi fiables que ce qu'on pensait. Mais bon, c'est la science, hein, ça commence comme ça, et puis forcément, il y a des ratés. Quoi.
Mais après, on a quand même les jours de pluie, on a quand même la moyenne des pluies, et tout ça, ça existait déjà.
Oui, voilà. Mais le premier élément, vraiment, c'était la température.
Ah oui, et là,
qui
c'était pas...
Voilà, et j'aurais pas été aimé être à la place des mecs qui se sont rendus compte au bout de 50 ans que, bah, finalement, en fait, on n'est pas trop sûr que ce soit exploitable.
Okay.
Alors, bon, bah voilà, ça commence comme ça. Ça bavouille, ça tournicote en essayant de se poser les bonnes questions, et voilà, ce sont les premiers pas de la météorologie moderne. Donc, bon an, mal an, effectivement, on continue d'avancer comme ça, et à l'aune de la Révolution française, le bon sens et la science convergent. Il y aurait un lien, notamment, entre les arbres et le climat, pour faire en sorte de réguler un petit peu tout ça. Donc on commence à réfléchir en boucle de régulation globale et vraiment...
Oui, bah il est comme Caro, lui. Hein. Il commence à nous tomber des...
On commence juste à se dire que le climat, c'est pas uniquement chez nous, mais peut-être aussi chez les voisins,
d'accord.
Et qu'il y a un lien...
Ça s'arrête pas aux frontières.
Voilà, okay. C'est ça. On accuse du coup à l'occasion la monarchie et la bourgeoisie d'avoir abusé de la nature et d'attraquer le climat du royaume de France. Mmh. Là, c'est toujours une arme politique, le climat, même à l'époque. Les ultra-riches qui profitent à outrance et les pauvres qui récoltent les famines et les catastrophes naturelles. Ça vous rappelle quelque chose ?
C'est
pas nouveau. Hein. Déjà, à l'époque, c'était ça. Et en l'occurrence, la nationalisation des forêts françaises, qui est remise en cause aujourd'hui avec les coupes budgétaires des forestiers, etc., date de la Révolution et a été prononcée à l'époque pour des raisons de protection et de restauration du climat.
Ah oui, donc déjà, on savait que les forêts... Voilà. Ça pouvait lier sur le climat.
Et on s'est dit à l'époque, il faut faire quelque chose. Il faut que ce soit placé sous la coupe du pays tout entier. Parce que si on laisse tout le monde, tous les propriétaires faire ce qu'ils veulent, finalement, on peut détraquer le climat à l'échelle globale.
Aujourd'hui, il y a plus de bois privé que de bois...
Ah, mais c'est peut-être ça le problème, du coup.
Que de forêt domaniale.
Parce qu'il faudrait justement revenir à un système. Enfin, à l'époque, c'était en tout cas la raison invoquée. Et je pense qu'effectivement, au niveau global, il y a peut-être des choses à mettre en place. Et voilà, ça ne va pas dans ce sens-là, en tout cas aujourd'hui, au niveau de nos politiques. Ensuite, après cette révolution, on a eu l'acte 3, l'oubli. Ah, le charbon, le pétrole, la chaleur pas chère, les engrais chimiques, avec toutes ces facilités. On en oublierait presque le temps qu'il fait. Eh bien oui, on a oublié tout simplement au XXe siècle que sans cette énergie pas chère, on reste à la merci du climat. Et acte 4, la reprise de conscience aujourd'hui. Retour à la case départ avec la conviction désormais que notre avenir se joue sur la maîtrise de nos impacts. Donc bien du chemin a été parcouru. Vous savez désormais qu'il y a un avant à la science du climat. Mais vous l'aurez compris, côté rationalité et cadre scientifique, c'était quand même mieux après.
Oui, c'est sûr. Mais bon, il y a quand même du boulot maintenant pour rattraper tout un siècle de...
C'est ça, mais c'est intéressant de se replonger justement dans ce que c'était avant, parce qu'on s'arrête rapidement au fait que le climat, en fait, on n'en avait rien à foutre, et maintenant on y fait attention. Et en fait, avant, il y avait déjà des gens qui se posaient déjà des questions. C'est ça.
Très bien, merci Jérémy. Dans quelques minutes, dans la deuxième partie de CMA, nous allons parler de satellites, de plantes, mais aussi de poupées. Et ça m'a donné une idée de musique. Allez, vous allez écouter plusieurs extraits de chansons qui parlent de poupées, justement. Et à vous de retrouver les chanteurs. Et on viendra, bien sûr, sur les origines de ces titres. C'est parti.
C'est une poupée qui fait non, non, non.
Alors, Caro. Caro, près du micro.
Polnareff,
très bien Caro. Oui, nous sommes en 1969 et Gérard Franck, accompagné de Michel Polnareff, chante les râteaux que leur font les filles, qu'il compare à des poupées. Et oui, déjà en 1969, les filles savaient dire non. Attention, deuxième musique. Oui, très bien, Thierry Hazard. Oh non, monsieur. Eh, hey, nickel.
Elle a dit au pif, à mon avis.
C'est un hasard, ouais.
C'est l'auteur du Jerk, effectivement, Thierry Hazard, qui commet ce titre bien sexiste où la femme est comparée à une poupée accessoirisée. À moins qu'il parle d'un sextoy de grandeur nature, mais enfin, c'est une femme objet 100% synthétique façonnée par l'homme pour l'homme. Voilà.
C'est beau.
Oui, c'est magnifique. Nouveau titre qui parle de poupée.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son.
Oui, France Gall, là aussi. Alors, c'est pas très flatteur pour la chanteuse, hein, surtout pour France Gall, puisque Gainsbourg, l'auteur de cette chanson de 1965, veut dire en fait que la chanteuse est naïve et godiche. Elle est là où on la pose, comme une poupée sur un fauteuil de bourgeois. Voilà, c'est là, et c'est avec ça qu'on gagne l'Eurovision, évidemment. Alors, cette chanson a été reprise en 2013, à vous de deviner par qui.
C'est pas France Gall.
C'est pas France Gall. Hein. Eh ben si, c'est Jennifer. Oui, c'est Jennifer qui a repris cette chanson.
Elle avait fait un album France Gall,
Voilà, en 2013. Alors, pour la petite histoire, tout le monde a le droit de reprendre une chanson sans demander l'avis, l'autorisation à l'auteur. Il est bien sûr crédité et gagne dessus, mais il ne peut pas refuser. À une condition, toutefois, c'est qu'on ne change pas les paroles de la chanson d'un seul mot.
Ouais.
Et du coup, dans cette chanson, la brune Jennifer chante ses cheveux blonds dans la chanson, puisqu'elle n'avait pas le droit de changer la couleur. Voilà.
Mais bon. Je crois que France Gall avait mis un veto pour refuser cet album et elles étaient en guerre toutes les deux.
C'est... Ouais. Oui. Non.
Si elle avait chanté brune, elle aurait pu dire non.
On continue.
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche.
Bah oui, évidemment, c'est Brassens. Alors encore une chanson qui parle de femme en disant que c'est une poupée. Alors avec Brassens, on aurait pu s'attendre au pire, mais là non, c'est la femme qui porte la culotte et l'homme n'en mène pas large. Eh oui, une chanson sur les rapports de couple. Autre chanson. C'est qui ? Effectivement, c'est Christophe Maé. Alors que pour les précédents titres, on trouvait un sens à la chanson, il faut bien avouer qu'avec celle de Christophe Maé, ben, on est proche du vide, hein, y compris dans l'interprétation.
C'est dur.
Mais bon, il y a poupée dans le titre, alors pourquoi pas. Alors attention, là, chef d'œuvre. Oui, bravo.
Les références.
Hein. Alors, puisqu'on est parti pour toucher le fond, voici donc Jolie poupée de Bernard Ménez. Mais au moins, le côté kitsch est aussi ici totalement assumé. Hein. La poupée, c'est le pansement que le chanteur a sur le doigt. Alors, il fallait y penser. Et quand on sait que ce même Bernard Ménez s'est ensuite lancé dans la politique, on imagine que la casserole a été dure à traîner. Au législatif de 2007, il obtiendra 0,3% des votes.
Pas mal. C'est mieux que Copé, dis donc.
Ouais. Ouais, enfin, c'était pas facile d'être pris au sérieux après ça, en tout cas. Il a 77 ans cette année, Bernard Ménez.
Eh ben, bon anniversaire.
Bon, alors, pour la pause, vous voulez quoi ? Paul Naref, Thierry Hazard, France Gall, Jennifer, Brassens, Christophe Maé ou Bernard Ménez ? Lequel vous voulez ? On a un Paul Naref ici.
France Gall, moi, j'aime bien.
France Gall.
Allez, deux France Gall.
France Gall, deux. France Gall. Eh ben, ce sera France Gall. Donc, on écoute France Gall pour, pour la pause.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Sale parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
C'était donc France Gall sur Radio G. Vous pouvez aussi retrouver toutes les émissions de CMA en accès libre et gratuit sur le site de Radio G, radio-g.fr, rubrique émission CMA. On repart donc justement dans CMA, l'émission qui revient sur les origines des choses. Voici le sommaire de la deuxième partie.
Don't donate.
On a donc parlé de poupées il y a un instant, mais leur origine est bien plus ancienne qu'on pourrait le croire, n'est-ce pas Sandra ?
Oui, tout à fait.
Donc on reparle des poupées ce soir alors.
Donc on va parler des poupées parce que voilà, c'était pas... Donc, j'ai décidé de réparer cette erreur en penchant sur l'histoire de la poupée parce que c'était pas vraiment mon jouet favori à l'époque.
Toi c'était quoi ?
Les voitures et les billes.
Ah ouais, d'accord.
Donc voilà, bon, donc, on parlera. Voilà.
Gros succès les billes. Ouais.
On l'a mis en orbite en début de saison. Après 3 tours de blog, il réatterrit en douceur dans CMA. Bonsoir Cisco, de quoi nous parle-t-on ce soir ?
Eh bien des satellites artificiels.
Ah !
Eh oui, la dernière fois j'ai parlé du satellite naturel de la Terre.
Et maintenant
artificiel.
Ok. On jurerait que son prénom est breton, mais ce serait plutôt un prénom du Sud. Mais vraiment du Sud, hein, puisque c'est marocain. Il fait sa première chronique ce soir. Bonsoir Titouan.
Bonsoir.
De quoi nous parles-tu ?
Des plantes d'intérieur.
Ah ! Ok, très bien. Donc, belle deuxième partie ce soir. On aura même droit donc à un nouveau Graal et vous verrez que ce n'est pas des fake news. Allez, en avant pour la deuxième partie donc, de CMA. Jouer à la poupée, c'est imiter maman et être utile en s'occupant d'un être, fût-il de coton. Aujourd'hui, les garçons ont le droit de jouer à la poupée, même si c'est encore mal perçu par une génération qui croit encore à l'instinct maternel. De la tête en porcelaine à la tête hyper réaliste, la poupée, c'est toute une histoire. Alors écoutons la poupée de son, voici la chronique de Sandra.
Moi qui ne suis qu'une poupée de plastique et de chiffon, on me bascule et mes yeux tournent en rond. Moi qui ne suis
Cool.
Ben oui, c'est Chantal.
Ah, que j'ai vu quand j'étais petite.
Ah, on est bien contents.
ça, c'est
très bien. Eh ben, va être passionnante tes chroniques, dis donc.
Allez, c'est parti.
C'est parti. On t'écoute.
Donc, j'ai décidé de me pencher sur l'histoire de la poupée. La poupée qui veut dire poupa en latin, qui signifie petite fille, mais n'est pas exclusivement féminin, comme tu l'as dit. Donc la fonction première de la poupée est l'imitation des parents, et le garçon joue le rôle du père, la fille le rôle de la mère. Il permet de s'identifier dans un rôle d'adulte, de grandir, et de manifester ses émotions. Exemple, on câline sa poupée, ou alors on la gronde, on lui donne des ordres. Et aussi, il doit d'imaginer des histoires, des scénarios, et donc de favoriser la créativité.
Moi, je lui arrachais les bras. Mais bon, après,
c'est marrant, ça ne m'étonne pas du tout de toi.
Ouais, hein, t'as vu, non, ce côté sadique,
général,
là.
En général, on coiffe.
Ouais. Non, contre le mur.
Non, même pas, on les maquille. Donc, c'est un jouet, en fait, millénaire qu'on retrouve même dans les sépultures de l'Égypte ancienne.
La bonne ambiance.
Mais on suppose que la poupée avait alors une fonction rituelle, en fait.
Ah, comme les vaudous, quoi.
Ouais, un peu, oui. Ouais, c'est d'accord. Cette idée-là. Et c'est plutôt à partir du 5e siècle qu'on trouve des poupées avec des articulations mobiles, c'est-à-dire les bras et les jambes qui bougent. Et du coup, là, ça a une activité ludique. Et la première poupée en porcelaine apparaît en Chine. Donc la poupée de porcelaine, déjà, c'est une poupée qui devient sophistiquée.
Voilà. C'était encore un jouet ou un objet de décoration ?
Non, c'était quand même un jouet.
D'accord.
C'était
très fragile. Mais fragile, voilà, c'est ça. Ouais.
Maintenant, c'est devenu des poupées de collection, évidemment. Mais c'était un jouet. Disons que c'était... À partir du 16e siècle, en fait, on fabrique d'abord des poupées en bois et en chiffon qui sont créées pour les familles les plus aisées, donc aristocratie. Et elles sont forcément, ce sont des poupées de fabrication artisanale. Et plus tard, ce sera forcément des poupées industrielles, on va dire. Fabrication industrielle. Et donc, les fabricants de poupées s'appelaient des bibelotiers.
Bibelots, comme les bibelots, quoi.
Ah,
ça a sûrement l'air.
Ouais, on pourrait dire ça. Ouais, mais non, c'est bib.
Ah, comme les bibelotiers. D'accord.
Ouais.
Nouveau mot,
ouais,
on note.
Je connais ça, je connaissais pas. Donc on passe de la poupée enfantine à la poupée mannequin. D'abord, à la poupée mannequin. Donc la poupée mannequin, ça s'appelait la parisienne. C'était des petites poupées, en fait, qui avaient pour but de promouvoir la mode française à l'étranger.
Ah,
et donc on peut dire que les vêtements, finalement, des poupées anciennes, sont une formidable source d'information et de transmission de la mode, en fait, d'une époque.
D'accord. Donc c'était pas des jouets du coup là.
Eh ben c'était pas vraiment. Enfin c'était quand même des jouets parce que disons que justement comme on a trouvé ça trop futile pour les petites filles parce que c'était la mode et que du coup on devait les poupées devaient avoir une fonction devait leur permettre d'avoir de s'identifier au rôle de la mère.
Oui.
Du coup les baigneurs sont arrivés par la suite.
D'accord.
Donc, ça arrivait d'abord les poupées à mannequins et ensuite on a créé les baigneurs.
Parce que c'était des adultes les poupées mannequins.
C'est ça. Donc, Les matériaux des poupées sont divers alors selon leur évolution. Donc d'abord en os, en terre cuite. Ensuite, bah oui, en os, c'est-à-dire bah, par exemple dans l'Égypte ancienne, forcément ah oui. c'était en os, en terre cuite. En bois et en chiffon et en porcelaine pour les... à partir du 5e siècle, quand, c'est... quand ça devient beaucoup plus, comment pour dire ça, plutôt pour l'aristocratie. Il y a eu des poupées en cire aussi. Voilà. Les poupées en cire sont très très fragiles.
Ça m'étonne.
ensuite, en celluloïde.
Celluloïde.
En celluloïde, ouais, c'est ouais. comme ça qu'on
bah,
appelle ça.
C'est
ouais,
bizarre,
c'est un dérivé de la marque cellulose.
C'est comme ouais. au cinéma, c'est, le, c'est le plastique.
Oui, mais c'est du plastique très très fin, cassant
ouais.
en fait.
Ouais, et puis c'est inflammable aussi.
Et inflammable, effectivement.
À peine dangereux pour les enfants.
À peine dangereux, hein.
Effectivement, c'est inflammable. Du coup, ensuite, ça a été remplacé par le roïde qui n'est pas inflammable, je pense. C'est un plastique un peu plus dur.
Comme dans Star Wars.
Pour finir.
Ah, oui,
pour
D2R2.
Finir par le plastique et le caoutchouc dans les années 60.
Ok.
En fait. Entrons à présent dans le monde des plangonophiles, c'est-à-dire les collectionneurs de poupées. Ça s'appelle les plangonophiles.
Ces gens qu'on a invités.
Ouais, c'est. T'as fait un plan et t'as une gonorrhée, quoi.
C'est, c'est sympa. Je veux vraiment côtoyer, tu sais.
Les gens qu'on... C'est, j'avoue.
C'est classe. De... Ça donne envie.
Les poupées sont fournies. Sont parmi les 5 objets de collection les plus courantes. Donc avec les timbres, les cartes postales, la monnaie et les bandes dessinées.
Ah ouais.
Voilà. Donc évidemment, la poupée la plus populaire, c'est Barbie, hein, qui fête ses 63 ans en 2022.
Elle les fait pas.
qui est née en 1959 avec la société Mattel. Et la première édition de la première Barbie était en maillot de bain zébré noir et blanc. Et on peut la reconnaître, la première édition, parce qu'elle a été rééditée en fait il y a quelques années. On peut la reconnaître grâce à des petits trous qu'elle a sous les pieds qui permettaient de la tenir sur un socle.
Ah oui. Ah.
Sachant qu'il y en a une qui a été vendue aux enchères en 2019, 27 450 euros.
Ah oui, c'est pas mal déjà
pas
pour
mal,
une poupée.
Pas mal, hein, déjà ouais.
Il t'en reste pas, Cisco, des poupées ?
Non, désolé, j'ai tout vendu. Comme mes cartes Pokémon aussi.
Ah, vas-y.
Alors pour revenir du coup aux poupées anciennes, les poupées les plus anciennes en fait avaient les yeux peints. Et ensuite, pour les poupées les plus sophistiquées, elles avaient les yeux en vert. Donc, par exemple, les poupées Steiner, les poupées... Enfin, il y a les poupées Steiner, les poupées jumeaux ont des poupées, ont des yeux en vert. Pour les poupées les plus sophistiquées. Elles peuvent avoir les yeux fixes ou les yeux riboulants. Alors, les yeux riboulants, ça veut dire des yeux qui tournent.
D'accord,
ça
d'accord.
Qui...
Encore un mot qu'on va pouvoir utiliser.
Ouais, ouais. Riboulant, je suis... Riboulant. J'ai des yeux
tu as les yeux riboulants. Sache-le.
En fait, vous bougez la tête de la poupée et...
Elle vous suit du regard, ça c'est flippant. À peine,
finalement.
À peine flippant.
Et les poupées les plus anciennes ont également une bouche fermée.
Il y a d'autres types qui ont des poupées.
Oui, c'est bien d'évoquer.
Non, mais c'est une façon de les reconnaître parce qu'après 1900, toutes les poupées ont la bouche entrouverte qui montre des petites dents.
Ah, d'accord.
Et, voilà.
Et on peut mettre
dedans,
le...
par exemple,
le biberon.
Il y en avait qui avaient double rangée, ça s'appelait des bébés requins. C'est fou.
D'accord. Super.
Donc, parmi les poupées les plus recherchées, alors je ne vais pas vous dire toutes les marques qu'il peut y avoir, mais il y a l'incontournable marque Petit Colin hein, que vous connaissez quand même.
Ah, Petit Colin, oui, c'est mignon.
Date de 1912 ouais. et qui comprend 60 modèles différents. Donc évidemment, je ne vais pas vous les dire toutes, hein, c'est impossible. Mais il y a la célèbre poupée Jeanne d'Arc.
Elle est en celluloïde,
on veut savoir.
C'est très recherché par les collectionneurs.
Elle brûle très bien.
Voilà. Et ça a été créé à la canonisation de Jeanne d'Arc, justement.
D'accord.
Hein, où les petites filles avaient les cheveux courts, justement, à cette époque.
Ah,
oui.
Oh là là.
Et il y a la poupée, le modèle Héloïse, ou les bronzés. Non, c'est pas les bronzés, ils font du ski.
Ah oui, non, parce que je n'ai pas trop les bronzés là-dedans. Héloïse.
En 1930. Et en fait, ça a été créé en 1930 pour les premiers congés payés. C'est des poupées
qui peuvent être en maillot de bain.
À la plage.
Ouais, un peu d'accord. ça, bronzé, en maillot de bain et une chevelure peinte nacré blond.
Ah,
ça évoque les vacances. Quoi.
Ça évoque les
mignon.
Vacances.
Ah, okay.
Et après, vous avez aussi les poupées chic de Paris. Derrière, c'est marqué PCP, poupées chic de Paris, qui était les Galeries Lafayette qui donnaient ça.
Okay.
Et du coup, vous les reconnaissez avec la petite tête d'aigle qui est derrière le dos. Ouais. En fait, pour
on fera attention, on regardera.
Alors vous avez également dans les
pour
très
terminer,
recherchées,
ouais.
j'ai bientôt terminé, les poupées jumeaux, là aux enchères il y en a pour 6000 euros hein, des fois, corps en bois, tête de porcelaine, c'est marqué bébé jumeau, vous avez les brus aussi, les poupées bleuettes, je suis obligée de vous en parler, parce que les petites poupées bleuettes, c'est des toutes petites poupées de 27 cm qui ont débuté avec la revue La Semaine de Suzette, ça date quand même, en 1905. Il y avait un abonnement, on s'abonnait et puis ils offraient une petite poupée.
Okay.
Ça vaut maintenant entre 600 et 6500 euros.
Ah oui, super.
Ouais. Elles étaient très très belles. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir tous vous parler, mais il y a la poupée tortue, il y a une
voilà. bonne tortue. Je pense qu'on va, on va
Annabelle,
s'arrêter là.
La poupée Annabelle.
Oh non, mais je
et
savoir.
Je termine quand même, du coup.
Il en reste 8, ça va.
Voilà, que comme un rêve de petite fille modèle, je vous souhaite de trouver une poupée ancienne dans votre grenier, tant qu'il ne s'agit pas de la poupée Chucky.
Ah oui, la fameuse.
C'est là une poupée qui a fait dans les films d'horreur.
Bah oui, c'est clair. Elle a les yeux qui bougent aussi. Dans quelques minutes, on continuera de s'envoyer en l'air, et cette fois-ci avec Cisco. Et attention à ne pas se planter avec Titouan. En attendant, le Graal arrive pour répondre à vos questions posées sur radio-g.fr. Là, on nous demande pourquoi il n'y a pas de loi contre les fake news. Eh bien, voici la vraie réponse du Graal.
Question de Lydie Dabrier, pourquoi ne fait-on pas une loi contre les fake news ?
De dire qu'il n'y a pas de loi contre les fake news est une fake news, et depuis longtemps. Le terme fake news, fausse information, est apparu dans les années 90 à la télé US. Francisé, on peut dire aussi infox. Ce n'est pas nouveau. Il y a 2500 ans, on utilisait déjà le mensonge comme arme de guerre. Il est toujours difficile de savoir d'où partent les rumeurs, mais il y a soit une idée de nuire, soit une façon un peu morale de créer une fausse polémique pour, par exemple, vendre un journal ou un poste. Si généralement ce sont les people qui sont visés, la politique n'est pas en reste. D'où l'idée d'une loi adoptée en 2018 en France contre la manipulation de l'information. Mais si on y regarde de plus près, une même loi existait déjà depuis 1881. En fait, on y a juste ajouté les réseaux sociaux. Après, son application est loin d'être évidente, mais elle a le mérite d'exister.
C'était le Graal à retrouver dans les podcasts du site radio-g.fr et le jeudi à 18h50 dans Topette sur cette même antenne. Vous sentez ? Ah si, ça sent le musk. L'Elon Musk même. Hein. Oh, enfin, un peu de virilité dans cette émission. Allez, oh, les vannes font fusée. Voici la chronique de Cisco. Où placer mon satellite ? Oui, effectivement, c'était Indochine.
D'accord, incroyable, je ne connaissais pas cette chanson. Merci Bruno.
Eh bien voilà.
Alors, les satellites. Lors de ma dernière venue, dans cette incroyable émission, je vous ai parlé de la Lune, le satellite naturel de la Terre. Aujourd'hui, je reste dans le domaine des choses qui gravitent loin d'ici. Non, je ne parle pas de l'humour de Bruno, je vais vous parler des satellites artificiels. Voilà, la première est pour toi Bruno.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que c'est quoi, dis donc, un satellite artificiel ? Eh bien, c'est un engin qu'on a placé en orbite autour d'un astre. Pas forcément la Terre, ça peut être une autre planète, celle de Bruno par exemple, et qui est porteur d'équipements à destination scientifique ou industrielle. Alors c'est utilisé dans plein de domaines, mais ça sert principalement à deux choses. Observer la Terre, pour prédire la météo par exemple. C'est grâce à eux qu'Evelyne Delia nous annonce l'arrivée d'un anticyclone, alors que personne ne sait ce que c'est. Mais les satellites, c'est aussi et surtout grâce à eux que nous pouvons avoir Internet sur nos téléphones, quasiment partout en France. Alors je dis quasiment parce que dans la Creuse, c'est pas encore ça. Je sais pas si t'as déjà essayé dans la Creuse d'avoir Internet.
Peut-être qu'eux, justement, utilisent plus le satellite que nous, hein, parce qu'on utilise le filaire. Donc ça peut peut-être les aider. Ouais.
Ouais, mais apparemment, les connexions, c'est pas terrible.
Non, bon, il n'y a pas le courant, de toute façon.
Oui, voilà. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Grâce au satellite, que nous pouvons donc écouter en replay les émissions CMA sur nos petits téléphones. Incroyable, non, merci la technologie.
Ça veut dire que nous, on est en train de voyager en ce moment
dans
l'espace.
Mais oui.
Oh, qu'est-ce que c'est beau.
Tout le temps. Ouais. Prends ton envol, Bruno, c'est parti.
C'est ça.
Alors, à votre avis, chers membres de l'émission, en quelle année fut mis en orbite le tout premier satellite ?
Alors, c'était Spoutnik.
Ouais, Spoutnik.
Alors, 1. c'était
57.
On a un 57, 52, 54.
Je sais pas. 50. Bah, Titouan était pas né, de toute façon.
Ok, 50. Eh bien, nous avons une bonne réponse. 4 octobre 1957.
Ah, bravo !
Voilà, lancé par Bruno dans son jardin. Non, pas du tout.
Voilà.
Il a été créé par la Russie. Voilà. Et plus précisément par l'ingénieur, alors attention, Sergei Pavlovitch Korolev.
Ah oui.
Je le prononce bien. Hein.
Ouais, très bien.
J'ai bossé mon accent russe, vu les actualités, je me dis que ça peut servir.
Ça, ils arrivent.
Voilà. Il avait du coup ce satellite, Spoutnik 1, pour mission de 22 jours, de transmettre des indications sur les vents solaires, le champ magnétique terrestre et les rayons cosmiques. Bon, ça c'était sur le papier, il avait surtout été conçu pour en mettre plein la vue aux Américains pendant cette charmante période de guerre froide, de bons souvenirs, pas si révolus apparemment. D'ailleurs, les Russes ne s'arrêtent pas là, puisque un mois plus tard, ce sont les premiers à envoyer un être vivant en orbite. Bah oui, envoyer une boîte de conserve dans l'espace, c'est marrant, mais avec un animal à l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus fun. Mmh. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Laïka. Exactement, la chienne qui a été envoyée en orbite par la Russie, du coup.
Ils n'avaient pas prévu la descente.
Eh ben non, c'était pas prévu. Bah, c'était prévu que c'était pas prévu.
Ouais, voilà, super.
C'était surtout ça, quoi.
Bravo pour le chien.
Après le succès de Sputnik 1, pardon, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev exige le lancement d'un second engin pour le 7 novembre afin de célébrer le 40e anniversaire de la révolution russe et au passage remettre un petit coup dans l'ego des Américains. Mmh. Tout ça en envoyant donc en orbite une chienne qui n'avait absolument rien demandé à personne. C'était une chienne d'ailleurs qu'ils avaient retrouvée dans la rue. C'était une chienne errante.
En plus.
Ouais. Donc ils en sont occupés pendant 2 semaines et après ils l'ont envoyé, enfin 2 mois et après ils l'ont envoyé
en
orbite. Le sacrifice animal pour le bien-être des humains. J'adore. Mmh. C'est Brigitte Bardot qui devait être contente le jour du lancement.
Oui, elle avait déjà 30 ans, hein, ou 40 ans.
Bah oui, c'est ça, ouais, exactement. Alors aujourd'hui, ce ne sont pas des chiens qui se baladent autour de la Terre, mais bien une armée de satellites, tous plus perfectionnés les uns que les autres. Et est-ce que vous savez d'ailleurs, à peu près, combien il y en a qui gravitent autour de notre tête?
Alors,
en ce moment.
Des milliers et des milliers. Hein.
Ouais.
Ouais.
Moi, j'étais étonné de demander à mon colocataire combien il pensait qu'il y en avait. Il m'a dit 1 million. Je dis, non, ça fait quand même beaucoup.
Alors ça, c'est les débris.
C'est vrai qu'on a, cette idée de...
Ouais. Il y a peut-être plus de débris, c'est sûr, mais...
Ouais, fonctionnel,
fonctionnel,
c'est ça.
Ouais. Fonctionnel,
ouais. Fonctionnel.
5 000.
Ouais, c'est 5 ça.
5 000,
ouais. Caro.
10 000.
100 000.
100 000
en plus, ouais. Non, non.
Ouais, 10 à 20 000.
10 à 20 000, ok.
On ne connaît pas les militaires, donc...
Allez, un dernier,
voilà,
Bruno.
C'est ça, problème. Bah, pareil, 10 000, ouais, 20 000. 000. Ouais.
Eh bien, c'est 8 100. En D'accord. tout cas, le 31 décembre 2021.
Plus les militaires, donc du coup, voilà. On ne reconnaît pas.
Dont 1 400 qui appartiennent à une entreprise.
Starlink.
J'en ai parlé tout à l'heure, exactement. L'entreprise SpaceX, la société d'Elon Musk. C'est le fameux projet, comme tu viens de le dire, Starlink, qui a pour ambition de fournir au monde entier une bonne connexion Internet. Les creusois tonnez bon, c'est pour bientôt. SpaceX qui prévoit d'ailleurs d'envoyer à terme 2027 12 000 satellites permanents en orbite autour de la Terre.
Pour bien nous pourrir l'espace.
Exactement, bah justement. Effectivement, depuis 2015, nous envoyons, nous les hommes, plus de 1000 boîtes de conserve chaque année gravitées autour de la Terre. En 2030, la NASA a calculé que nous pourrions avoir jusqu'à 100 000 satellites au-dessus de nos têtes, avec une durée individuelle de 5 ans. Donc tous les 5 ans, il faut en renvoyer. Adieu les douces nuits d'été allongées dans l'herbe à contempler la noirceur du ciel, dans l'espoir presque divin de ne serait-ce qu'apercevoir timidement, à l'œil nu, les contours de nos chères voisines, Vénus et Mars, ou le passage fulgurant et magnifique d'une étoile filante. Non, dans quelques années, les petits points blancs qui scintillent au-dessus de nos têtes la nuit ne seront pas des lumières d'étoiles venues frapper nos rétines après avoir parcouru des milliards et des milliards de kilomètres, mais bien des constellations de satellites placées en orbite basse. Et non, les petites traînées que nous verrons dans le ciel ne seront pas des astéroïdes venus du fin fond de l'univers finissant leur course vieille de millions d'années dans l'atmosphère de la Terre, mais bien des machines mises hors service car devenues obsolètes. Voilà. Mais réjouissons-nous, car grâce à eux, nous profiterons d'une connexion Internet exceptionnelle qui nous permettront de garder les yeux rivés sur nos téléphones afin de retrouver l'émission CMA, et ça, même en plein milieu de la Creuse. Incroyable, non?
Incroyable. Merci Cisco.
Mais on peut déjà les reconnaître en regardant le ciel.
Oui, oui, oui. À certaines heures, ouais. Tu peux les voir.
Parce qu'en plus, ils sont en cohorte, donc tu les
fais des petites traînées, ouais.
Allez, on l'a fait patienter toute l'émission, on imagine le stress d'une première chronique, et il ne faut pas se planter, mais n'ayons pas peur, il a la main verte, voici la chronique de Titouan.
J'aurais pu être un cerisier, ou un pommier dans un verger, j'ai pas eu de chance dans la vie, disent mes cousins de l'Aveyron. C'est dur, de nos jours, d'être un philodendron.
Philodendron, pourquoi on parle de philodendron, je ne comprends pas.
Qui chante ça?
Eh bien, je ne sais pas.
Ah non,
tout.
Ça par
qui
contre, on ne sait pas. Non,
on va le Shazam.
D'accord. Eh bien, on va parler de plantes et des plantes d'intérieur, plus précisément. Aujourd'hui, on connaît bien donc, ces plantes super tendances, les philodendrons, les monstéras, les orchidées que l'on voit dans toutes les jardineries et supermarchés. Mmh. Mais à quand remonte cette tendance de la plante d'intérieur? C'est finalement assez récent, vous allez voir. Tout commence au début du 19e siècle avec la révolution industrielle. Les logements sont mieux isolés et il y a de plus grandes fenêtres et plus lumineuses. C'est donc tout naturellement que les plantes s'invitent en intérieur, y compris celles qui n'avaient pas l'habitude de nos contrées. Les maisons deviennent des serres et les essences rares ne sont plus réservées aux scientifiques excentriques des plus grands jardins botaniques. Évidemment, les premières plantes d'intérieur étaient des grands classiques, de simples bulbes qui grandissaient déjà partout. Puis les tendances ont évolué. Certains, comme Bruno, ont connu en 1950 la folie des fougères.
Et il commence. Première
bien,
critique, déjà,
oui,
il me casse.
C'est
tu
la
vois.
Meilleure chose.
Ah ouais,
génial,
super.
Bon, parfait.
Ouais. Bienvenue.
Ouais, ouais, super.
Puis
tu
de
as ta
1960
place,
à 1970, on connaît l'épiléa, les platycerium, les sansevieria, les fameuses langues de belle-mère.
Ah oui.
Ouais. Un petit fun fact pour finir, c'est à votre avis, quelle était la première plante qui a été domestiquée par l'homme ?
Le cerisier.
Alors non.
Ouais, le pommier. Le bah non, intérieur.
Non plus. Ah oui, non plus. Pas le blé.
La patate, ouais. Ça se mange ?
Non, mais du coup, la plante d'intérieur, non ? Non, vraiment le...
Plante.
Ah oui. Ça se mange ou pas ?
Non. Alors genre non, ça se mange pas.
Le chanvre ?
Ça se fume ?
Le cactus ?
Oh, ouais. C'est ça, c'est ça, le cannabis.
Ah bah oui, forcément.
Oui.
Ah, belle plante d'intérieur. Domestiquée par l'homme. Et du coup, sinon, oui, c'est vrai, les plantes d'intérieur aussi rendent plus heureux. Elles luttent même contre la déprime hivernale. Le chanvre aussi lutte contre la déprime hivernale, tout à fait. Et la légende urbaine qui dit qu'il ne faut pas trop de plantes dans la chambre car la nuit elles aspirent l'oxygène est totalement fausse. Les plantes respirent mais elles consomment largement moins d'air que votre conjoint. il n'y a donc aucun risque à dormir dans une serre.
Remplacer votre conjoint par des plantes.
Je crois, elle dépollue l'air un peu.
En plus.
Ça par contre c'est un peu faux, c'est presque insignifiant.
Oui, bah oui, c'est ça.
Malheureusement.
On testera.
Eh bien écoute, merci Titouan et bravo pour cette première.
Ouais, bravo.
Ouais, on espère te retrouver au micro de Radio G. Dans quelques instants, on va découvrir qui de nos chroniqueurs et chroniqueuses ont gagné le CMA+, la chronique publicité par nos auditeurs lors de la précédente émission. Mais avant, on retrouve Franck Coty qui nous a dégoté de nouveaux plagiats. C'est pas beau de copier ses petits camarades.
Salut, c'est Franck Coty, j'espère que vous allez bien. On commence avec la chanteuse Kylie Minogue, qui en 2020 sort excuse-moi, t'as dit en 2020 ? C'est-à-dire qu'elle sort encore des tubes, Kylie Minogue ? Ouais, moi aussi je suis étonné.
C'est fou.
Je disais donc, en 2020, elle sort un tube qui s'appelle Magic. Ouais, normalement, si t'es un petit peu mélomane, tu as pu chanter une autre chanson sur cette suite d'accords. Ah non, mais là, elle a carrément pompé toute la grille d'accords de Cherish, la chanson de Cool and the Gang. Écoute. Non, mais là, c'est tellement évident. Tiens, d'ailleurs, pour t'en rendre compte, on remet la chanson de Kylie Minogue et on chante Cherish dessus. Cherish the love we have. We should cherish the life we live. Cherish the love, cherish the love. On y croit, non ? Allez, je te mets une autre chanson qui date elle aussi de 2020. C'est Fabish et Will Sims. Et la chanson s'appelle No Way. Attends, t'as bien entendu ? Non mais là, c'est complètement pompé sur une chanson de 1987 sortie par les Gypsy Kings, Bamboleo. Et pour le coup, ceux qui ont fait la chanson No Way se sont exprimés. Pour faire cette chanson, il nous a fallu une fille, deux gars, un mouton et les Gypsy Kings dans un studio. Sauf que ces derniers n'ont pas pu le faire ce jour-là parce qu'ils ne savaient pas qu'on existait. Ouais, je veux bien, mais en attendant, il aurait fallu au moins les créditer sur le morceau parce que quand on regarde les crédits de No Way, il n'y a aucun des auteurs-compositeurs des Gypsy Kings qui n'apparaissent dans la chanson. Après, la chanson de No Way n'est pas non plus excessivement connue. Enfin, je suis en train de me dire, c'est peut-être avec cette vidéo que les gypsies vont s'en rendre compte qu'il y a eu plagiat et s'il y a une plainte de déposer, ça va être à cause de moi. En 2002, c'est Shania Twain qui sort sa chanson C'est la vie. Écoute. Ah non, mais là, t'as reconnu de quoi il s'agissait, bien sûr. Ça ressemble à une autre chanson de 1976 du groupe suédois Abba, Dancing Queen. Plagiat. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur tous les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter et Discord.
C'était Franck Coty à retrouver avec le compte du même nom sur YouTube. Rejoignez ses 450 000 abonnés. Bon allez, le suspense est intenable. Voici les résultats des votes des auditeurs pour la meilleure chronique de l'émission précédente de CMA. Elle n'arrête pas de causer ce soir, Caro. Je sais pas, tu sais qu'on t'entend dans le micro quand tu causes, Caro.
Oui, profitez-en.
C'est fait pour ça le micro.
Ouais. À chaque émission, des auditeurs votent pour les sujets qui les ont le plus intéressés dans CMA. Histoire de bien mettre la pression sur les chroniqueurs, on délivre à chaque fin d'émission le CMA Plus de l'émission précédente. Et bien justement, il y a 15 jours, nous avons parlé du commissaire Maigret, de la réussite à l'école, des masques de Venise, du tricot et du orange d'Hermès. Eh bien, la chronique qu'ont retenu les auditeurs qui ont voté, et là, c'est à l'unanimité, c'est celle de Pauline, avec la réussite à l'école. Il faut dire qu'elle a fait fort, car elle nous a démontré que tout ce qu'on pensait sur la différence de compétences entre hommes et femmes en matière comme les maths, par exemple, c'est ça, était complètement faux. Et ça, on a vraiment appris quelque chose, et donc c'est bien mérité. Bravo en tout cas à Pauline. Une chronique à écouter dès maintenant dans les CMA+, de la rubrique Podcast+, du site radio-g.fr. C'est la fin de l'émission. Merci à nos chroniqueurs et queueuses du soir. Merci Jérémy. Merci Florian. Merci Sandra. Merci Caroline.
Merci. Je vais faire les bacs de tous les merci.
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 Merci Cisco.
Merci.
Merci Titouan.
Merci.
Et on embrasse fort bien le reste de l'équipe hein, que vous retrouverez dans les prochaines émissions. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. D'ici là, n'oubliez pas, on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.